La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici dans cette maison de prière, bienvenue au chœur ce matin qui est avec nous, avec Fabien Aubé, son chef de chœur, et merci à David Casson d'être avec nous dans ce moment pour accompagner ce temps de culte. Nous sommes réunis ce matin dans un jour qui pour le monde profane est extrêmement intéressant et important puisqu'il s'agit de la Saint-Valentin. Et ce matin nous parlerons d'amour ici à l'église puisqu'il me semble que cela fait partie de nos vies de façon très importante. Alors bienvenue dans ce temps où nous allons méditer ensemble de nos sentiments amoureux. Nous allons louer Dieu ensemble et le reconnaître aussi dans son amour pour nous. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Seigneur, bénis-nous au moment où nous entrons dans ce temps, un temps mis à part pour toi, un temps qui nous permet de nous souvenir de notre propre vie et de tous les bienfaits que tu y mets. Merci Seigneur d'être auprès de nous sans cesse. Et si nous ne savons pas toujours te voir, nous savons que tu nous aimes sans cesse. Alors, permets que ce matin nous te louons, nous te demandons ta grâce et nous te remettons toutes ces paroles qui seront dites ce matin, tous ces chants chantés pour toi, pour que le monde reçoive cette joie de t'aimer. Amen. Et nous chantons ensemble le premier spontané dans les livrets qui sont au début des psautiers français. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Et nous louons Dieu avec ce psaume de David. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre d'Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au cou et jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend sur le mont Hermon, sur les montagnes de Sion. C'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Que cette image de bénédiction sur le grand prêtre Aaron soit l'image de la bénédiction que nous recevons ce matin. Louons Dieu pour cette bénédiction toujours renouvelée. Nous louons Dieu avec le psaume 25 dans les psautiers et les quatre strophes.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous nous présentons devant le Seigneur avec ces paroles extraites du psaume 25, psaume de David. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui sans raison sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. Le Seigneur redit sans cesse sa grâce à quiconque se tourne vers lui. Il nous assure de son pardon, de sa miséricorde. C'est ce que dit le poème de David. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle te prie, au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Thank you. Nous confessons ensemble notre foi avec les mots d'une amie bibliste qui nous confie sa confession de foi et qui nous dit par cette confession la multiplicité des façons de s'aimer, la multiplicité des couples possibles qui nous semblent toujours étrangers quand on les regarde. Je crois au Dieu de la libération. Comme Dieu fit sortir les Hébreux du pays de l'esclavage, je crois de même que Jésus-Christ nous fait sortir de nos enfermements. Je crois qu'il nous apprend jour après jour à construire notre dignité humaine et à nous tenir debout devant le Père dans la joie, la paix du cœur, la confiance en son amour et en son soutien. Je crois que Jésus nous fait découvrir qui est Dieu, un Dieu qui n'habite pas dans des maisons faites par les mains des hommes, c'est-à-dire un Dieu que nous ne pouvons pas enfermer dans des statues, dans des temples, dans des dogmes, dans des préjugés, mais un Dieu qui habite les pierres vivantes que nous sommes. Je crois que Jésus aime et appelle tous les humains sans distinction, les femmes et les hommes, les blancs, les noirs, les jaunes, les pauvres et les riches, les hétérosexuels, les homosexuels, les transsexuels, les jeunes et les vieux, et toutes les autres différences qui existent. Car tous sont enfants bien-aimés de Dieu. Je crois que Dieu veut que nous construisions ensemble un monde de paix en partageant notre diversité et nos richesses. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, nous irons faire un tour dans un livre tout à fait atypique de la Bible. Il s'agit du livre du Cantique des Cantiques. Cela s'imposait pour un dimanche comme celui-là. Et je vous invite à lire, à écouter, en tout cas pour vous, le Cantique des Cantiques au chapitre 6, qui n'est qu'un exemple de toutes les richesses qu'on trouve dans ce texte, le texte est très très difficile à couper. On a du mal à choisir un passage plus qu'un autre. Donc j'ai choisi pour vous ce chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? De quel côté ton bien-aimé a-t-il tourné ses pas, que nous le cherchions avec toi? Mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, ma compagne, comme Tirsta, charmante comme Jérusalem, mais terrible comme les troupes sous leurs bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant du Galahad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Elles ont toutes leurs sœurs jumelles, aucune d'elles n'en est privée. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Les reines sont 60, les concubines 80, les jeunes filles sont innombrables, Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la plus resplendissante pour celle qui lui donnait ici le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celui-ci qui apparaît comme l'aurore? Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore? Belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Je descends au jardin des noyers pour voir les jeunes pousses du ravin, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir me rend semblable au char de mon noble peuple. Nous chantons ensemble. Je vous invite à la prière. Et nous prions avec le grand mystique, philosophe et poète persan du XIVe siècle, Hafez. Il nous parle du désir de l'homme pour Dieu. Mille amoureux te désirent. Nul mortel n'a pu te voir. Mille amoureux te désirent pourtant. Il n'est pas de rossignol qui ne sache que dans le bouton dort la rose. L'amour est là où la splendeur vient de ton visage. Sur les murs du monastère, sur le sol de la taverne, la même flamme inextinguible. Là où la secte enturbanée célèbre Allah, nuit et jour, où les cloches de l'église appellent à la prière, où se trouve la croix du Christ. Amen. Le texte le plus érotique de la tradition juive, le Cantique des Cantiques, est vraisemblablement le plus profane des livres de la Bible. Voilà ce qu'écrit David Bial dans son Eros juif, alors qu'il cherche si la culture juive libère ou réprime la sexualité. Il est vrai que peu de livres dans la Bible font ainsi l'éloge de la relation amoureuse et érotique, comme le fait le Cantique des Cantiques. Il est vrai aussi que dans le texte, l'amant et la sulamite sont deux êtres humains et que Dieu est absent de leur commerce. Le livre biblique fait figure d'ovni dans le paysage biblique. Pourtant, en ce qui concerne son entrée dans le canon biblique, on trouve dans la Mishnah ces propos de Rabbi Akiva sur cette entrée du livre. « À Dieu ne plaise, personne en Israël n'a jamais contesté que le cantique souille les mains, car toute l'histoire du monde n'offre pas une époque égale au jour où le cantique a été donné à Israël, car tous les écrits sont sacrés, mais le cantique est le plus sacré. » Quand le rabbin dit que le cantique souille les mains, il veut dire qu'il est sacré et que toute main qui le touche est forcément souillée si on la compare au caractère sacré du livre. Est-ce sa beauté, est-ce son audace ou son originalité qui ont valu au Cantique des Cantiques sa notoriété inclassable ? Difficile de le dire, à moins que ce ne soit l'universalité du sujet qu'il touche. Le désir et l'amour de deux êtres qui s'attirent et se cherchent sans parvenir jamais à se posséder vraiment l'un l'autre. Belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. L'amour fait peur à l'amant qui voit celle qu'il convoite comme une force à la merci de laquelle il se trouvera bientôt. Ce désir exprimé dans le Cantique des Cantiques a aussi fait peur à ceux qui l'ont lu des siècles après son écriture. Et le livre de l'érotisme s'est mué en métaphore de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple ou entre Jésus et son Église. Comment ce glissement a-t-il été possible? Ne pouvait-on pas exclure ce livre des textes bibliques canoniques et le ranger dans la poésie érotique et profane? Plutôt que de vouloir édulcorer ces images en les élevant, en les élevant à des désirs qui pouvaient tout à coup être dans une spiritualité étonnante, de vouloir à tout prix en faire un texte sacré, un texte qui nous parle de Dieu alors qu'il ne parle nulle part de Dieu. La sexualité n'est pas absente des textes bibliques, bien sûr, mais elle y est présente selon deux critères essentiels pour comprendre son statut. La fidélité et la fécondité. Dans tout le livre de la Genèse, il est question de mariage et aussi des problèmes de mariage mixte, de procréation et de difficulté à se faire un patrimoine. Il ne s'agit donc pas ici de dire que la Bible ne parle pas de sexualité, surtout si l'on lit les longs textes de généalogie qui nous semblent aujourd'hui si secondaires et qui pourtant occupent une place essentielle dans les récits du Premier comme du Second Testament. À ce propos, David Bial écrit « La culture biblique s'attaque aux questions relatives à la sexualité armée d'une remarquable théologie de la subversion sexuelle, dans laquelle la fougue érotique, apanage des femmes de préférence, devient la métaphore de l'impétuosité politique d'une jeune nation ambitieuse. » Il y aurait donc un débat politique sous-jacent à toutes ces histoires d'alliances et de mésalliances qui parsèment les récits bibliques. Le peuple de Dieu est dans l'angoisse de sa disparition. Il est tout petit. Il a peur de ne pas avoir de descendance. Il a donc l'angoisse de la fécondité. Mais il est aussi dans l'angoisse de sa fidélité fragile à un Dieu unique, car il est confronté aux cultures polythéistes avec lesquelles il est en constant dialogue. C'est ainsi que le peuplement de la terre par une descendance nombreuse, quitte à épouser des païennes pour que les générations survivent, et la répression de l'infidélité à un Dieu exclusif, trouve dans la sexualité l'expression ambivalente qui lui convient. Ruth, par exemple, dans le livre de Ruth, la Moabite qui séduit Boaz, devient une des mères du peuple d'Israël, et le prophète Osée parle de sa mésalliance avec une prostituée pour raconter la difficulté pour le petit peuple de Dieu de se faire un nom, une identité, une origine digne et qui ne soit pas souillée par les alliances avec les païens. Alors, le Cantique des Cantiques serait-il lui aussi empreint de cette ambivalence de la sexualité d'un peuple qui se cherche? On a émis beaucoup d'hypothèses quant à l'origine du Cantique des Cantiques, qui ressemble à certaines littératures polythéistes. L'historien Jean-Christophe Saladin fait remarquer que polythéisme, prostitution sacrée et hymne érotique sont intimement liés, car tous les polythéistes vénèrent la force irrésistible de l'amour charnel, source de fécondité et de richesse pour la société des hommes et celle des dieux. Pour eux, l'amour est une divinité essentielle, fascinante et redoutable. Fin de citation. Le Cantique des Cantiques est donc un texte qui ressemble beaucoup à certains textes païens, certains textes polythéistes, certains textes de hiérogamie, par exemple, qui nous décrivent l'union entre un prêtre et une prostituée sacrée. Tout cela ressemble fort à cette relation des deux amants du Cantique des Cantiques par des images très explicites dans le texte. Alors, le désir amoureux est-il profane ou sacré? La question peut sembler saugrenue, et pourtant, la présence de ce texte dans la Bible est l'indice que la coupure n'est pas si simple. On n'a pas retiré le Cantique des Cantiques de la Bible, on l'a bien gardé, on a dit même qu'il était l'un des plus sacrés. Dans ce dialogue amoureux, il n'est pas question de fécondité, ni de fidélité. La Sulamite ne parle pas de donner des enfants à son bien-aimé, et l'amant ne la voit pas comme une mère potentielle. Il la compare d'ailleurs avec des figures féminines autres. Les reines sont 60, les concubines 80, les jeunes filles sont innombrables, uniques. Et ma colombe, ma parfaite. On est loin ici des matriarches de la Genèse et la figure de la courtisane semble plus adaptée à cette Sulamite qui est choisie alors que sa peau est noire, ce qui n'est pas un critère de beauté parmi les canons de l'époque. Elle est la femme étrangère. Elle vit derrière les murailles d'une ville où l'amant ne peut entrer facilement. Les gardes veillent et il veille tant et si bien qu'il réprime la Sulamite qui cherche son amant trop près des murailles. Au chapitre 5, en effet, on lit « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé avait tourné le dos. Il était passé. J'ai défailli à ses paroles. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé ma mantille, les gardes des murailles. » Les violences faites aux femmes sont-elles aussi présentes dans le livre qui pourtant respire l'amour, décidément? Ce point-là aussi est malheureusement intemporel, tout comme le sont le désir des deux amants et la passion amoureuse qui les unissent. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Chacun voudrait posséder l'autre et se placer dans une situation de dépendance qui serait pourtant inacceptable avec quiconque voudrait y prétendre en temps normal. Mais l'amour rend dépendant. Même le plus libre des êtres ne peut se passer de l'être aimé. L'amant craint sa colombe comme il craint les troupes armées et pourtant il veut aller vers elle. Que recherchons-nous dans l'amour de l'autre ? Dans cette relation amoureuse qui nous rend moins libres et pourtant semble révéler à chacun une part de soi-même étonnamment audacieuse. Dans le chapitre 2, on trouve ce verset que André Chouraki traduit ainsi. « Il prend la parole, mon bien-aimé, il me dit « Lève-toi vers toi-même, mon ami, ma belle, et viens vers toi-même. » On retrouve ici la même expression que dans la vocation d'Abraham où le patriarche est invité à partir de là où il est installé pour aller se trouver lui-même dans un pays qu'il ne connaît pas, mais que Dieu lui montrera. Il n'est pas question ici de Dieu ni de vocation de serviteur de Dieu et pourtant le même élan se retrouve dans la vocation et dans la passion amoureuse. Aimer passionnément serait alors se retrouver soi-même en l'autre. N'aimerions-nous, au bout du compte, en l'autre que nous-mêmes? On est tenté de le croire et pourtant, la relation amoureuse est une réelle découverte de l'inconnu de l'autre et de soi-même. Et cette découverte ne cesse jamais. L'amant du Cantique tente de faire le portrait de sa bien-aimée. Détourne de moi tes yeux, car il me trouble, ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant du Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Elles ont toutes leurs sœurs jumelles, aucune d'elles n'en est privée. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. On sait déjà que la Sulamite n'est pas édentée. C'est déjà une belle chose. Il tente donc de faire entrer le visage de sa belle dans le monde d'images qu'il connaît, dans sa représentation à lui du monde, pour se l'approprier, se la rendre proche. Il pense à toutes les belles choses qu'il a déjà vues et les rapproche de ce visage. Mais elle reste une image sans cesse à déchiffrer. Et même le plaisir charnel éprouvé avec elle reste insaisissable parce qu'il échappe, il ne se conserve pas, il fuit. Sans cesse, les deux amants du cantique se cherchent et s'esquivent à l'autre et à eux-mêmes. L'amour ne se possède pas. Il fait appel à notre foi en l'autre, à notre foi en un sentiment fuyant et pourtant omniprésent. Il ne repose sur aucune réalité tangible. L'autre peut partir à tout moment, disparaître, et l'objet de l'amour ne sera plus là. Le désir de l'autre est désir d'on ne sait quoi. Il est pur désir et c'est sans doute ce qui rapproche la foi de ce sentiment amoureux. C'est ce qui le rapproche, ce sentiment, de la foi pour la transcendance que nous appelons Dieu. Un Dieu que nous n'avons jamais vu, qui peut toujours être ou ne pas être, qui peut toujours exister ou ne pas exister, dont on n'aura jamais la preuve. L'amour est ainsi. Nous n'avons jamais la preuve que nous faisons le bon chemin ensemble, que nous savons exactement comment l'autre nous aime et comment nous l'aimons. Et pourtant, la foi en l'autre nous pousse à continuer à aimer. C'est sans doute cette conscience d'une grande proximité entre le désir de Dieu et le désir charnel qui a poussé les gens pieux à vouloir à tout prix séparer l'amour charnel de l'amour spirituel, le profane du sacré, jusqu'à inventer des naissances sans sexualité pour qu'elles soient vraiment, vraiment spirituelles. Et la force de l'amour humain est si redoutable qu'elle obtient la foi qu'aucune doctrine ne peut obtenir. Alors évidemment, cela trouble tous ceux qui voudraient le pouvoir à Dieu seul. L'être aimé est une fiction puissante, comme l'est celle de Dieu, une fiction déterminante pour nos choix de vie. On peut faire tant de choses par amour, on peut être tellement audacieux, changer de vie complètement pour l'amour d'un autre. C'est une fiction très puissante pour nos existences et qui porte notre vie à pousser plus loin sans cesse dans la découverte de ce sentiment extraordinaire qui nous submerge, qui nous libère et nous attache. Ainsi, sommes-nous prêts par amour à devenir dépendants affectivement de l'autre, et paradoxalement, cette dépendance consentie nous rend plus libres, comme si nos chaînes enfin identifiées dans l'amour nous gardaient de toute autre entrave. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Chacun le croit, et c'est ainsi qu'on aime. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à chanter le cantique 202, les strophes 1 et 2. Pardon, 1, 2 et 3. Voilà, c'est le moment de partager quelques annonces. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est Juliette Wasson, qui est notre trésorière, qui va partager avec nous les annonces ce matin.
Très chers frères et sœurs, bonjour. Je suis vraiment très reconnaissante de votre présence ici. À l'Oratoire du Louvre, malgré les restrictions sanitaires que nous devons observer et surtout le grand froid que nous connaissons depuis quelques jours à Paris, ou encore à distance devant votre écran, parfois au bout du monde, je pense particulièrement aujourd'hui aux Canadiens et aux Australiens. Je souhaite remercier chacun, chacune d'entre vous qui avez contribué au bon déroulement de ce culte. Enfin, mille merci à Béatrice Cléromazir pour cette prédication, inspirée par cette journée où l'amour est à l'honneur, et à David Cassan à l'orgue et au cœur de l'Oratoire du Louvre. Votre accompagnement musical a sublimé notre communion. Aujourd'hui, notre pasteur Agnès Lynn Schaeffer n'est pas avec nous, car elle préside le culte à la paroisse de Saint-Eustache, puis elle sera en congé toute la semaine prochaine. Ainsi, vous aussi, Béatrice vous propose un partage biblique mardi 16 février de 14h30 à 16h, ici même dans le Temple. Il sera question des vulnérables de la Bible, thème choisi pour cette année. Jeudi 18 février, vous êtes invité à participer à la pause spirituelle de 12h30 à 13h30, toujours dans le Temple. Cette séance sera également conduite par Béatrice. Et enfin dimanche, vous retrouverez Agnès Aline Schaeffer pour le culte de 10h30. Si vous le pouvez, pensez à déposer dans le temple sur les bancs de la chapelle à gauche quand vous entrez des produits de soins et d'hygiène corporelle que Denise Brigou et son association Un Cœur Ensemble distribueront aux personnes qui en ont besoin. D'ailleurs, Denise est parmi nous aujourd'hui dans l'Assemblée, si vous voulez la rencontrer pour qu'elle pouvoir échanger avec elle au sujet de ses actions. Elle se fera un plaisir de
Alors peut-être, Denise, tu peux te lever pour, voilà, Et bonjour aux amis de l'Armée du Salut qui sont avec nous ce matin et à notre ami Diaconas qui est avec nous aussi. Merci de partager ce moment. Pardon, Juliette.
Je vous en prie. Le compte-rendu des deux dernières réunions du Conseil presbytéral est à votre disposition sur la grande table de la chapelle de gauche. Vous y trouverez les dernières décisions prises. Et voilà pour les annonces. Et maintenant, voici venu le temps des offrandes. Si vous ne disposez pas d'espèces, je passerai parmi vous avec le panier connecté pour une offrande par carte bancaire sans contact. Faites-moi signe et je vous rejoindrai. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche et puisse cette journée vous combler.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux à travers le monde qui manquent terriblement d'amour. Tous les solitaires qui ne l'ont pas choisi. Tous ceux qui ne sont pas mus par cette passion. Permets, Seigneur, que ton amour soit sur tous et qu'aucun ne perde courage et foi dans la possibilité d'être aimé et d'aimer. Nous te remettons, Seigneur, tous nos manques d'amour, toutes nos difficultés à aimer sincèrement, toutes nos difficultés à dire notre amour aux autres. Bénis, Seigneur, tous les couples et permets qu'ils soient dans ton union, une union sincère et gracieuse. Nous te remettons, Seigneur, tous nos amours déçus, toute la foi déçue. Permets qu'aucun de nous ne perde sa foi en l'autre et que nous puissions sans cesse être consolés de ces déceptions. Rappelle-nous, Seigneur, que nous pouvons être solidaires aussi dans ces blessures d'amour et trouver la consolation auprès des frères et sœurs qui écoutent et comprennent. Nous te remettons, Seigneur, tous les tartuffes de ce monde, tous ceux qui veulent couper le profane et le sacré pour pouvoir mieux réprimer le sentiment amoureux. Permets, Seigneur, qu'il soit empêché par notre audace, par notre fidélité, par notre joie d'aimer. Nous te demandons, en ce jour où beaucoup de couples vont fêter leur amour, que tous ces amours soient bénis et qu'ils soient heureux. Ensemble, nous te disons avec confiance la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'était le moment d'une halte. Dans la chaleur humaine, dans la chaleur de la communion, nous étions ensemble ce matin et voilà qu'il nous faut repartir ailleurs où d'autres nous attendent pour donner cette chaleur là où il y en a besoin. Alors, frères et sœurs, allez. Que vous soyez amoureux, passionnément amoureux, ou que vous cherchiez l'amour, vous êtes tous dans la bénédiction de Dieu et vos amours sont sacrés. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui nous aime tous tels que nous sommes, nous bénit et nous garde. Amen. Je vous invite à laisser vos livres sur vos chaises. Merci beaucoup.